Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une voix qui crie dans le désert. La Fondation Jérôme Lejeune ne cesse d'alerter l'opinion publique en expliquant que 96% des personnes trisomiques en France sont l'objet d'un avortement. La radicalité du propos a valu récemment à cette fondation d'être l'objet d'une tribune publiée dans le journal Le Monde de 146 médecins et chercheurs, dont certains du Collège de France, demandant au pouvoir public de reconsidérer la reconnaissance d'utilité publique attribuée à cette fondation. Son président, Jean-Marie Le Menay, ne lâche rien et est l'auteur d'un ouvrage coup de poing intitulé « Les premières victimes du transhumanisme, rencontre ». Jean-Marie Le Menay, bonjour.
Bonjour Emmanuel Pella.
Voilà, vous êtes donc le président de la Fondation Jérôme Lejeune, qu'on ne présente pas à nos invités, quoique, est-ce que vous pouvez la présenter peut-être brièvement pour ceux qui ne la connaîtraient pas ?
Oui, vous avez rappelé que Jérôme Lejeune était le découvreur de la trisomie 21, il est mort en 94, il y a donc 16 ans, et il était encore en activité, donc nous avons repris sa consultation, la plus grande consultation d'Europe de retard mental d'origine génétique, avec beaucoup de personnes touchées par la trisomie 21, une consultation qui fait 8000 patients. Nous avons repris aussi son activité de recherche, puisqu'il n'y a plus de recherche aujourd'hui pour essayer de comprendre cette pathologie et puis de la combattre, de la mettre en échec. Donc on a repris ce travail de recherche. Et puis, bien sûr aussi, on a repris son activité de défenseur de la vie, puisque, comme chacun sait, Jérôme Lejeune s'était vigoureusement opposé à l'idée qu'il puisse d'un côté accueillir des patients trisomiques et de l'autre les supprimer en vertu d'un eugénisme qui était devenu légal. Donc chercher, soigner, défendre sont les trois missions de la Fondation Jérôme Lejeune.
Merci de cette introduction. Alors, on commencera par un élément d'actualité, puisque la Fondation Jérôme Lejeune, donc soutenue par 20 partis, vient de déposer un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objet de ce recours et pourquoi cette démarche ?
Oui, nous exerçons une veille très attentive de tous les textes légaux et réglementaires qui sortent au Journal officiel et en particulier dans le domaine qui nous concerne, le domaine de la bioéthique. Et on a noté qu'il y avait donc un décret qui sortait et qui mettait sur pied et qui organisait un suivi de toutes les grossesses de toutes les femmes enceintes, de manière à tracer scientifiquement ce qu'ils appellent les issues de grossesse. C'est-à-dire que toutes les grossesses sont pistées, sont tracées, sont notées, sont enregistrées pour qu'on puisse voir les issues de grossesse, c'est-à-dire les enfants qui naissent, les enfants qui naissent pas, les enfants qui sont avortés, les fausses couches, les enfants handicapés, etc. Et ceci dans le but d'améliorer les performances du dépistage anténatal de la trisomie 21. Donc en fait, nous avons attaquer ce texte devant le Conseil d'État en considérant qu'il était illégal de faire du pistage ainsi des femmes enceintes. Et on a gagné puisque le Conseil d'État nous a donné raison, mais l'État a repris un autre arrêté qui fait exactement la même chose et qui donne une base juridique plus solide à son texte. Donc le combat n'est pas terminé.
Alors, vous avez sorti donc en 2016 un ouvrage paru aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, donc « Les premières victimes du transhumanisme ». C'est pas votre premier ouvrage. On citera entre autres « La trisomie est une tragédie grecque » paru aux éditions Salvator en 2009. L'objet de ce cri, enfin de ce coup de gueule, de ce livre, c'est donc la généralisation possible du dépistage de la trisomie 21 via un test ADN. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où on en est en France de cette réalité ?
Oui, je peux vous reprendre juste sur un terme. C'est pas vraiment un coup de gueule. C'est-à-dire que nous, à la Fondation, on est obligé de suivre les questions qui sont qui tiennent à la trisomie 21, puisque c'est quand même un des grands sujets que nous traitons et à la consultation et dans le domaine de la recherche. Donc tout ce qui concerne la trisomie, évidemment, y compris sur le plan des lois, sur le plan du dépistage, nous concerne directement. Donc nous savons depuis des années que un nouveau test était en train de se préparer à partir d'une découverte qui a été faite il y a une dizaine d'années, qui est une découverte excellente, qui montre que dans le sang de la maman enceinte, il y a des traces du génome de l'enfant qu'elle porte. Donc, au moyen d'une prise de sang non invasive, une prise de sang tout à fait ordinaire, eh bien, on peut analyser dans le sang circulant de la maman enceinte, non seulement le sang de la mère, bien sûr, mais aussi des éléments du sang de l'enfant. Donc, on peut voir dans ce sang des parcelles d'ADN, des morceaux du génome, des traces du génome de l'enfant. Et donc, en comptant les chromosomes, puisque le génome, on voit les chromosomes, en comptant les chromosomes, s'il y en a 47, c'est-à-dire que s'il y a 3 chromosomes sur la paire numéro 21, c'est évidemment l'indice que la maman attend un enfant trisomique. Alors, ça va révolutionner évidemment le dépistage anténatal, et cette découverte a mis du temps à être convertie en test commercialisable. Et moi, j'ai pisté ça depuis 10 ans, et j'ai été enquêté sur le terrain. C'est une partie aux États-Unis, une partie en Allemagne, une partie en France, et j'ai voulu faire un état des lieux et montrer comment ce test est devenu maintenant un objet de consommation qui va être diffusé dans le monde entier, qui va rapporter des milliards à ses concepteurs. C'est ça que j'ai voulu expliquer dans ce document.
Alors justement, ça prend, comme vous dites, la forme d'une enquête. Enfin, c'est quasiment, on peut lire ça presque comme un roman.
Oui, c'est ça. C'est pas une enquête policière, oui.
Voilà, qui n'est pas qu'un roman d'anticipation. Et donc, il y a une fameuse, ça commence en page 27, avec donc cette entreprise qui s'appelle Sequanon, donc à la tête duquel se tenait à l'époque un certain Harry Steely. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette entreprise Sequanon, en quoi elle s'est spécialisée, quel est son marché ?
Bon, c'était une entreprise de biotechnologie, comme il y en a beaucoup, et en particulier sur la côte est des États-Unis. Donc ils font des produits qui permettaient d'analyser l'ADN, le génome, les gènes, les chromosomes, etc. Donc quelque chose d'assez classique. Et en fait, quand ce monsieur Harry Steely a repris l'entreprise, car l'entreprise n'allait pas bien, elle a été rachetée, eh bien ce monsieur a décidé de faire quelque chose pour remonter la boîte. Et pour remonter la boîte, il a dit, mais voilà, en fait, l'idée de génie, c'est d'arriver à créer un test à partir de la découverte de ces fragments de génome qui circulent dans le sang de la maman enceinte, et de surtout en faire une application tout de suite, immédiate, pour la trisomie 21. Pourquoi ? Pour deux raisons, et il s'en explique auprès de ses actionnaires. Parce que d'abord, c'est le dépistage de la trisomie 21 est un mal nécessaire. Bon, déjà, c'est très curieux de s'exprimer en ces termes, parce que tout dépistage n'est pas un mal, au contraire. Un dépistage, c'est un bien. Dépister, c'est pour soigner, c'est pour que le patient aille mieux. Mais qualifier le dépistage de la trisomie comme un mal nécessaire, ça montre que, déjà, dans l'activité de dépistage de la trisomie, il y a l'avortement qui est compris dedans. Ça fait partie du paquet, si je puis dire.
Alors, si vous permettez, je citerai là ce passage dans le livre. Vous dites donc c'est en juillet 2008, et vous citez donc ces mots. J'imagine que, enfin voilà, vous les avez en effet trouvés quelque part. Stratégiquement, nous avons choisi le syndrome de Down, donc qui est, la trisomie. Parmi nos objectifs initiaux, cela présente un mal nécessaire et une importante opportunité de marché de Sequanon. On se dit mal nécessaire, c'est-à-dire il a conscience que c'est un mal malgré tout.
Oui. Oui, la conscience que c'est un mal, c'est déjà pas si mal, mais c'est un mal nécessaire quand même. Le problème, c'est que c'est le mot nécessaire qui va pas. C'est un mal nécessaire, donc c'est vraiment avouer au fond que le dépistage de la trisomie 21 comprend non seulement le dépistage, mais également l'élimination de l'enfant trisomique. Et puis, vous l'avez cité, c'est aussi une formidable opportunité de marché. Donc, ça veut dire qu'on peut faire de l'argent avec ça. C'est-à-dire que plus le test sera efficace, plus on dépistera de trisomiques, moins il y aura de trisomiques de naissance, de trisomiques vivants, et plus on fera de l'argent. Voilà, c'est ça le ressort de cette commercialisation du test qu'ils ont fabriqué.
Alors, à la lecture de votre ouvrage, on se pose une question. Est-ce que vous avez essayé de contacter ce Harry Steely, de donner, entre guillemets, la parole à la défense ?
Ben non, parce que si vous avez bien lu mon livre, tous ces gens-là ont été condamnés. Parce que c'est une des particularités de mon bouquin, c'est que c'est une enquête policière. Ce démarrage s'est très très mal passé, puisqu'ils étaient tellement enthousiastes à l'idée de faire une première application très lucrative de cette découverte sur la trisomie 21, qu'ils ont anticipé des chiffres fabuleux qui donnaient le vertige. Ils se sont dit, mais ça va rapporter 10 milliards de dollars dans quelques années. Et donc, ils ont fait monter la cotation des actions, ils ont appelé des capitaux, etc. Et pour crédibiliser leur mouvement d'enthousiasme et d'optimisme, eh bien, ils devaient publier. Bien sûr, il faut publier quand on fait des tests. Est-ce que les tests sont performants, pas performants, sensibles, pas sensibles, etc. Donc, ils ont publié des tests, des publications scientifiques montrant que ces tests étaient extraordinaires, qu'ils faisaient du 100%. Et en réalité, ils ont falsifié les publications scientifiques pour faire monter les actions. Bon, ce qui est évidemment extrêmement condamnable, pénalement. Enfin, publier des résultats scientifiques qui sont faux et tromper ainsi non seulement l'opinion, mais les investisseurs, c'est évidemment très grave. Après ça, s'apercevant que l'action allait baisser parce que le coût avait été éventé, ils ont racheté les actions, donc il y a eu des conflits d'intérêts, des prises illégales d'intérêts. Enfin, ça a été une affaire qui s'est terminée devant la justice. La personne qui avait trafiqué les publications est morte dans des circonstances bizarres. Donc il y a eu une enquête policière, plusieurs enquêtes policières, et tout ce beau monde a été condamné et débarqué. Donc j'ai pas pu évidemment interroger ces gens-là qui avaient disparu. Donc c'est pour montrer que en fait leur initiative était totalement impure dès le démarrage, était totalement viciée par l'idée de faire du fric autour d'une découverte qui allait être, selon les mots même d'Aristilli, le Google du dépistage anténatal. Et c'est là en fait qui est un peu la clé aussi du livre et qui nous amène au transhumanisme, la volonté de faire avant la naissance un moteur de recherche merveilleux qui permettrait de tout attraper avec certitude, de manière non invasive, de manière très précoce et très sûre.
Alors peut-être, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que le transhumanisme ? Parce qu'on en entend souvent parler, on a fait des émissions à cette antenne, mais c'est vrai que c'est pas toujours clair dans l'esprit des gens, et puis pour certaines personnes, c'est juste fantasmatique. Et qu'est-ce que recouvre ce terme ? Quelle réalité peut-être déjà aujourd'hui, y compris, enfin pas que concernant la trisomie 21 ?
Le transhumanisme, c'est une idéologie, un mouvement de pensée qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans notre monde et qui repose sur un constat, qui est le constat de la mort de l'humanisme et du fait que l'homme est au fond une expérience ratée. Donc comme le dit mon ami Fabrice Adjadj, c'est pas l'erreur est humaine, c'est que l'humanité est une erreur en fait. L'humanité est une erreur parce qu'on a une vision totalement matérialiste de l'homme, que tout ça doit évoluer, tout ça évolue et qu'aujourd'hui la convergence d'un certain nombre de technosciences comme les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, les sciences cognitives permettent de dire qu'on va pouvoir augmenter l'homme et le faire passer dans une autre espèce. Donc ce qu'il faut bien noter, c'est ça. C'est le fait qu'il ne s'agit pas de réparer l'homme, il ne s'agit pas de le soigner, il ne s'agit pas de l'améliorer, il s'agit de l'augmenter et donc de le faire changer de nature. C'est ça qui caractérise le transhumanisme et ce transhumanisme adviendra le jour où l'intelligence artificielle prendra le pas sur l'intelligence humaine, ce qui devrait se passer dans quelques dizaines d'années. Voilà quelle est l'idée du transhumanisme qui repose encore une fois sur une vision absolument matérialiste de l'homme, une vision déconstructiviste, l'antispécisme en particulier, dont on fait grand cas, hein, puisque maintenant tout le monde écrit, les journalistes écrivent sur le l'antispécisme qui consiste à considérer qu'au fond, quand on dépiote un être humain au niveau moléculaire, et qu'on met les molécules sur la table et qu'on compare avec les molécules d'un autre mammifère ou même d'un ver de terre, il n'y a pas de différence parce qu'au niveau le plus fin, le plus moléculaire, les plus petites bases de l'être humain sont les mêmes. Donc au fond, il n'y a pas de différence entre les espèces, donc d'où le mot antispécisme. Tout ça est une affaire d'organisation. L'organisation de l'être humain peut être un peu plus compliquée. Mais nous sommes en fond tous partie prenante dans cette grande spirale du vivant qui va vers le bonheur. Et nous devons participer à notre propre évolution. Et comme l'homme est effectivement un être un peu plus intelligent, eh bien c'est lui-même qui sera l'architecte de son évolution transhumaine, puisqu'il lui, c'est lui-même qui conçoit l'intelligence artificielle qui va le dominer. Donc au fond, l'homme est suffisamment intelligent pour être l'architecte, l'artisan de son évolution qui va arriver par l'intelligence artificielle qui va dominer l'intelligence humaine. Donc c'est ça l'idéologie du transhumanisme. Alors à la base de tout ça, il y a une volonté aussi de faire de l'argent, car c'est non seulement libertaire mais très libéral. Derrière, il y a beaucoup d'argent à faire parce que on vend ça aux gens. Vous allez être augmenté, c'est-à-dire que vous allez allez vivre très longtemps, on va augmenter votre intelligence, on va vous augmenter votre sexualité, en particulier votre reproduction. Et c'est ça, en fait, le package qui fera que derrière, on pourra dégager beaucoup de profits. Alors, le transhumanisme fait beaucoup fantasmer, il y a beaucoup d'émissions sur le sujet. Les gens pensent que c'est pour demain, après-demain. En réalité, le transhumanisme est déjà là, dans le domaine de la reproduction. Et tout le cycle de la PMA depuis 20 ans est d'inspiration transhumaniste.
Donc c'est-à-dire la PMA, c'est la procréation
médicalement assistée. La procréation médicalement assistée devient maintenant le standard de base, et on ne procrée plus à l'ancienne, sauf pour se faire plaisir, mais sinon on procrée de manière responsable, limitée et validée sur le plan de la qualité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon livre « Les premières victimes du transhumanisme », parce que qui dit « homme augmenté » dit homme diminué. Et les transhumanistes sont des eugénistes, et donc ils se disent, bon, faute d'arriver encore vraiment à avoir augmenté l'homme, eh bien, commençons par éliminer les hommes diminués, parce que ceux qui n'acceptent pas l'augmentation, ou ceux qui ne sont pas susceptibles d'être augmentés, comme les trisomiques, par exemple, tous les anormaux à la naissance, eh bien, on les élimine avant. Et donc, ce test-là s'inscrit dans une démarche transhumaniste qui consiste à dire, il y a des surhommes et il y a des sous-hommes. Et ce sont les surhommes qui dirige et qui élimine les sous-hommes. Et on est dans cette démarche-là. C'est pour ça que j'ai parlé des premières victimes, parce que ce sont les premières dans l'ordre chronologique, et puis parce qu'il y en aura d'autres. Parce
Alors, excusez-moi,
Google du dépistage, concerne la trisomie aujourd'hui, concernera d'autres pathologies demain.
On a bien compris, Jean-Marie Le Menet. Vous avez prononcé le mot eugénisme. Alors, pour ceux qui connaissent, donc c'est un mot lourd de sens. Est-ce que vous pouvez préciser en fait ce que ça veut dire et pourquoi vous utilisez ce terme ?
L'eugénisme, ça consiste à considérer que toute vie ne mérite pas d'être donnée, ne mérite pas d'être vécue, et ça consiste à donner la mort par compassion. C'est-à-dire qu'on est exactement dans ce schéma-là, et à la fin de la vie aujourd'hui, puisque l'euthanasie est quasiment en place en France avec les lois Leonetti. Et puis, c'est aussi le cas du début de la vie, puisque toutes les grossesses qui sont porteuses d'un enfant handicapé se terminent, dans la plupart des cas, par l'avortement. Vous l'avez cité, 96% des enfants trisomiques sont avortés. C'est-à-dire que pour le cas de la trisomie 21, aujourd'hui, on est dans un eugénisme d'État qui est parfaitement reconnu, revendiqué, organisé, financé, budgété, validé par le monde du système de la santé en France. Enfin, ça n'a fait aucun doute. Il n'y a que certains naïfs qui pensent qu'au fond, les femmes ont encore le choix, etc. L'indicateur de 96% d'avortement n'est pas un chiffre qui n'est pas un critère de liberté. Quand une urne électorale est remplie à 96% avec le même bulletin, on annule l'élection parce qu'il est évident qu'il y a un biais. Bon, quand vous dites que 96% des grossesses trisomiques dépistées se terminent par l'avortement, ce n'est évidemment pas le fait d'un choix libre des femmes, car on ne peut pas supposer que toutes les femmes refusent absolument la naissance d'un enfant porteur de la trisomie. Alors, c'est ça l'eugénisme. Mais l'eugénisme, la grosse différence entre l'eugénisme d'aujourd'hui et l'eugénisme qu'on a connu il y a 70 ans, il y a une énorme différence. C'est que l'eugénisme n'est plus porté aujourd'hui par une idéologie totalitaire coercitive, elle est portée par un libéralisme et une marchandisation du vivant qui s'impose aujourd'hui à chacun d'entre nous.
Alors on va faire une première pause musicale et puis après on reviendra dans cette aventure. Vous expliquez un petit peu dans votre ouvrage que donc, enfin un peu plus loin, que Sequanon n'a pas disparu. Enfin c'est juste ses premiers dirigeants qui ont été mis à l'amende et que donc, comment dire, ce test a débarqué en Europe, d'abord en Allemagne et puis maintenant en France.
Thank you.
Capella.
Voilà, cette émission donc ce matin sur le dernier livre donc de Jean-Marie Le Mennay, Les premières victimes du transhumanisme, livre paru aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Jean-Marie Le Mennay, faut-il le rappeler, donc qui est le président de la Fondation Jérôme Lejeune. Alors, on a vu avec vous donc le début de cette histoire que vous racontez, hein, pour rappel, pour ceux qui nous prendront en cours de route, l'histoire, c'est celle d'une entreprise, en tout cas, c'est le fil rouge qui s'appelle Sequanon, qui est une entreprise donc en Californie, et qui a comme projet en fait d'industrialiser, si j'ai bien compris, un nouveau test, qui est un test donc de dépistage de la trisomie 21 via l'ADN de la maman. Vous expliquez un peu plus loin dans votre ouvrage, après le fait que les premiers dirigeants ont été condamnés, mis à l'amende pour diverses malversations, que ce test a débarqué en Europe. Alors ils ont commencé par l'Allemagne, et vous dites que c'est entre lignes que c'est un choix assez stratégique, disant que c'est un peu le cheval de Troie. Alors pourquoi? Est-ce que vous nous expliquez quand c'est arrivé, ce qui s'est passé, et pourquoi l'Allemagne?
Oui, alors après la mise, la condamnation des dirigeants de Sequanon pour ces malversations que vous avez rappelées, il a fallu redonner confiance aux investisseurs qui avaient perdu totalement confiance dans cette entreprise Sequanon. Et en fait, ils ont fait venir, à ma grande surprise, j'ai découvert ça en étudiant le dossier, deux Européens, deux professeurs de médecine européens, un Allemand et un Français. Le français venant de l'hôpital Necker enfant malade, et l'allemand je connaissais pas, le français je connais, et ils ont dit bah maintenant on va se tourner vers l'international et on va développer l'international, et ils ont choisi pas par hasard donc deux pays, l'Allemagne et la France. Alors pourquoi l'Allemagne? Eh bien l'Allemagne libérale, bon, elle a toujours été économiquement le cheval de Troie des États-Unis, mais je pense que je suis certain que c'est stratégique, parce que en faisant passer ce test par l'Allemagne, on le débarrasse de sa connotation eugéniste. Évidemment, les Américains savaient très bien, parce qu'en Amérique, il y a quand même un parti pro-life qui est très important, et qui est beaucoup plus important que dans tous les pays européens, et qui s'était ému d'ailleurs de cette façon de commercialiser ce test de dépistage qui allait faire finalement du 100% d'élimination de trisomique.
Alors juste avant que vous allez plus loin, est-ce que vous pouvez dire un mot de cette émotion que ça a suscité aux États-Unis, et peut-être du combat qu'il y a eu aux États-Unis contre ce type de dépistage?
Ce combat-là, je l'ai pas suivi énormément. Ce que je sais, c'est que déjà dans la presse locale que j'ai consultée, il y a des gens qui se sont émus de cette manière de traiter la trisomie uniquement sous la forme d'un dépistage en tout ou rien qui se termine par l'avortement. Donc, comme vous savez que les pro-life, ça fait 50% du corps électoral américain, il y a forcément des réactions qui sont beaucoup plus vigoureuses qu'en France ou en Allemagne, par exemple, où il y a pratiquement pas d'opposition, ou en tout cas une opposition très marginale. Donc les Américains, d'un point de vue stratégique, se sont dit bon, on va développer notre test aux États-Unis. Il a été d'abord développé aux États-Unis, ça a marché et ça marche. Et puis après ça, ils se sont dit on va se tourner vers l'international, mais passer par l'Europe et singulièrement par l'Allemagne, c'était important parce que on débarrasse, en passant ce test par l'Allemagne, on les débarrasse de sa connotation eugéniste. Pourquoi? Parce qu'on dit si l'Allemagne, qui compte tenu de son passé, accepte ce test, qui est par ailleurs critiqué pour sa dimension eugéniste, c'est que vraiment les Allemands, qui sont assez sourcils sur la question maintenant, trouve que ce test mérite quand même d'être acheté. Donc en fait, on blanchit en quelque sorte le test en le passant en Allemagne. Et moi j'ai été en Allemagne, j'ai discuté avec quelques parlementaires allemands qui étaient ulcérés de la manière dont les choses se passaient, parce que ils me disaient en Allemagne, on a des idées sur le sujet, on a envie de dire non, mais en fait on est tellement traumatisé par notre passé que on n'ose pas prendre la parole sur ces questions-là, parce que on nous dit c'est pas à vous de dire ça. Vous êtes suffisamment déconsidéré dans le passé sur la question de l'eugénisme pour ne pas qu'on vous entende encore aujourd'hui. Donc en fait, les Allemands font une sorte d'autocensure et donc ne disent pas au fond leur désaccord. Ou ils le disent de manière voilée.
Alors,
c'est ce qui s'est passé.
Alors que vous dites dans votre ouvrage que la majorité globalement, la droite allemande parlementaire serait en esprit en tout cas opposée à ce type de dépistage.
Oui, alors ils ont une sorte de comité d'éthique qui s'est prononcé sur le sujet de manière assez soft, et en même temps en laissant la parole aux oppositions. Donc il y a le point de vue de ceux qui n'étaient pas d'accord, qui consignaient aussi dans l'avis du comité d'éthique allemand, ce qui n'est évidemment pas la position française. En France, tout le comité d'éthique français, par exemple, sur ce test-là, a été unanime pour dire que ce test ne pose aucun problème, y compris les représentants des religions et des religions chrétiennes. Pas un seul n'a levé le petit doigt pour dire que ça posait un problème éthique. En Allemagne, ils ont levé le doigt pour dire que ça posait un problème éthique, mais bon, c'est resté dans les cartons, si vous voulez. Voilà la différence entre l'Allemagne et la France. Et...
Alors, juste sur l'Allemagne, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, c'est qu'à un moment dans votre ouvrage, vous citez justement, ça fait écho à ce que vous venez de dire, hein, mais vous citez un extrait, je crois, de l'avis du Conseil éthique national, qui date donc de l'été 2012, où il est dit la chose suivante: dès lors, on voit mal comment le rejet des personnes susceptibles d'être atteintes d'un handicap physique ou mental pourrait être compatible avec le droit de chaque individu à l'inclusion sociale, à l'interdiction constitutionnelle de toute forme de discrimination sur la base de caractéristiques particulières. C'est-à-dire, on a l'impression que l'avis est mis figue mi-raisin, mais qui dit une vraie opposition de certains, et pourtant, le dépistage a été après validé.
Mais oui, bien sûr, parce qu'ils ont finalement une plus grande liberté, peut-être... morale d'expression que nous en France, et ils ont pu s'exprimer, comme je viens de le rappeler, dans ce comité d'éthique. Leur point de vue a été consigné, on a entendu des parlementaires, j'ai été rencontrer l'un d'entre eux en Allemagne, on les a entendus prendre la parole dans l'hémicycle et dire des choses comme aucun parlementaire français, ou très peu en tout cas, serait capable de le faire. Il y a des pasteurs protestants qui ont pris la parole de manière très claire. Mais après ça, vous savez très bien que le marché, c'est le marché. Quand il n'y a plus de principe dans une société, c'est le marché qui fait la loi. C'est cette démocratie molle qui a fait la loi. Et donc, ils ont pu s'exprimer, mais le test a été accepté par l'Allemagne et dans tous les pays qui sont sous influence allemande. Et c'est quand même beaucoup, ça fait beaucoup de monde. Et après ça...
Alors attendez, qu'est-ce à dire quand on dit tous les pays sous influence allemande? C'est-à-dire que ça a commencé donc en Allemagne, et alors après ce test a été généralisé dans quel pays, et quand est-ce qu'il est arrivé en France?
Alors il a été généralisé, il a été en Autriche, en Suisse, au Liechtenstein, oui, dans des pays comme ça. Voilà, donc en fait, petit à petit, dans les pays qui sont sous influence économique de l'Allemagne, ou plus ou moins, eh bien, le test est arrivé de cette manière. Voilà. Après ça, le système de santé allemand n'est pas le même que le nôtre, et l'Allemagne ne paye pas tout à tout le monde. L'Allemagne reste un pays économique libéral, et qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui restent à la charge des patients. L'impact économique de ce test dans le système de santé allemand n'est pas le même que... en France. En France, et c'est la raison pour laquelle le test est arrivé en France après, c'est que l'intérêt de le faire arriver en France, c'est que la France, quand elle adopte quelque chose dans ce domaine-là, elle le fait pour tout le monde, parce que elle a une politique de santé socialiste depuis 70 ans, si vous voulez. Donc en fait, c'était très intéressant d'aller d'abord en Allemagne sur un plan moral, et d'aller en France ensuite pour l'aspect tiroir-caisse. Parce que si le test est acheté par la France, il sera acheté pour les 850 000 femmes enceintes, et derrière, c'est quoi comme budget? C'est 1 milliard. C'est-à-dire que l'assurance maladie française est prête à dépenser 1 milliard d'euros pour dépister les 4% de trisomiques qui naissent encore. Voilà, c'est ça la réalité de mon livre. Ce chiffre d'un milliard, c'est pas moi qui l'ai calculé, c'est le comité d'éthique français qui a chiffré à 1 milliard le coût du test. Alors, c'est vrai que c'était il y a quelques années, c'était il y a 3-4 ans, j'avais moi-même été interrogé par le comité d'éthique, j'avais été auditionné par le comité d'éthique, et ils avaient dit, et ils l'ont mis d'ailleurs dans leur avis, que le test, s'il était adopté à l'époque, il y a 3-4 ans, il coûtait 1 milliard. Mais vous savez que la particularité de tous ces produits modernes, c'est que le prix diminue, c'est comme tous les produits informatiques, les prix diminuent à toute vitesse, et ce test qui était à 1500, puis 1300, puis 1200, puis 1000 euros. Maintenant, il est en dessous. Il est aux alentours de 500 ou 600 euros.
Alors,
et lorsque ce test-là ne coûtera pas plus cher à la France que le système qui est actuellement en vigueur, avec les marqueurs sériques et la myosynthèse, eh bien la France l'achètera. Et personne n'en saura rien.
Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas en France.
Donc pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais il y a eu déjà des pré-rapports qui montrent que tous les clignotants sont au vert. Ils terminent les phases d'essai, de test, c'est ça. Et surtout, ils attendent que le produit baisse. Et dès que le produit atteint, encore une fois, le seuil de tolérance budgétairement supportable, on passera du système actuel, avec ces deux phases qui sont lourdes et contraignantes, à ce nouveau système-là. Et l'assurance maladie, on est venu démarcher l'assurance maladie. On lui dit, mais écoutez, voilà, il y a un truc qui est vachement bien, ça va être moins cher, c'est plus sûr, c'est précis, c'est précoce, c'est sans risque, etc. Est-ce que vous le prenez? Et l'assurance maladie dit, écoutez, si vous me dites que c'est mieux qu'avant, je le prends. Voilà, et c'est ce qui est en train de se passer.
Alors, vous en avez parlé un petit peu, vous en parlez dans votre ouvrage, est-ce que le comité consultatif national d'éthique s'est penché sur cette question? Quelle a été un peu la teneur des débats, et quelles ont été les conclusions?
Alors c'est très simple, le comité d'éthique a une position dont je parle dans mon livre, qui est assez stupéfiante. En fait, ils disent deux choses. Ils disent d'une part, le dépistage anténatal de la trisomie qui se termine par l'avortement, la France y a déjà consenti il y a déjà de nombreuses années. Donc en fait, on a déjà passé ce pas, on a déjà franchi cette limite, on a déjà franchi ce Rubicon, et donc on accepte déjà de supprimer la quasi-totalité des enfants trisomiques qui sont conçus. Bon, donc avoir un test un peu plus performant ou un peu moins, ça ne fait pas de différence de nature, si vous voulez. Donc le péché originel, il est déjà commis. Voilà, c'est ce que dit le comité d'éthique. Comme raisonnement moral, comme raisonnement éthique, évidemment, ça se pose là. Autrement dit, ça veut dire on va dans le mur. Donc, de toute manière, qu'on aille plus ou moins vite, on va dans le mur. Et puis, le deuxième argument, c'est de nuancer quand même son propos en disant, alors, pour la trisomie, ça pose aucun problème. C'est pas de l'eugénisme. Enfin, c'est un eugénisme qu'on a accepté, très bien, les trisomies qu'on n'en veut pas. C'est un ordre établi.
Excusez-moi, juste, ils le disent pas comme ça. Ils disent pas, dans le rapport, il n'est pas marqué, les trisomies qu'on n'en veut pas. C'est l'interprétation que vous en faites.
Non, ce n'est pas l'interprétation que j'en fais. Lorsque vous lisez les livres produits par le monde médical aujourd'hui, le fait de supprimer l'enfant trisomique 21 fait partie d'un ordre établi. C'est un ordre établi. Le terme n'est pas de moi. Je fais référence au livre de Jacques Millez, qui a été publié chez Odile Jacob il y a 15 ans maintenant. Jacques Millez, qui est catholique, pratiquant, dit « c'est un ordre établi, il ne doit plus naître d'enfant trisomique 21, on se dispensera de demander l'avis aux parents, et pour les professionnels, ça fait bien longtemps que notre avis est déjà forgé. » C'est ça la réalité en France. Voilà. Donc en fait, c'est une vieille idée, une vieille idée qui s'est concrétisée, et le comité d'éthique se base sur cet acquis. C'est un acquis social, on n'y revient pas. Alors pour nuancer son propos, il dit « oui, mais alors attention, demain ça va être très grave, parce que non seulement on pourra diagnostiquer la trisomie 21, mais on pourra aussi tout diagnostiquer. Et c'est pour ça que je parle, le titre que j'ai choisi, c'est les premières victimes, parce qu'on va savoir extrêmement tôt la composition du génome des enfants à naître si ce test est proposé en population générale un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, je veux dire, non seulement la trisomie, on la verra, bien sûr, mais on verra tout le reste. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces diagnostics extrêmement précis, extrêmement précoces et sans risque? Je veux dire, les femmes seront mises dans une situation qu'elles ne connaissent pas aujourd'hui, car aujourd'hui, ces dépistages d'anomalies à la naissance, enfin à la conception, ne sont dépistés qu'après, au-delà de la 12e semaine, et on rentre à ce moment-là dans le délai de l'interruption médicale de grossesse, et il y a une régulation, enfin une forme de régulation qui est faite par la médecine. C'est le médecin qui, dans ce cas-là, dit « Écoutez, madame, vous attendez un enfant qui a telle ou telle caractéristique, c'est une maladie grave et incurable, etc. » Et dans ce cas, vous pouvez avoir droit à une interruption médicale de grossesse. Ça va sauter, cette césure-là entre l'interruption médicale de grossesse qui est à la main du médecin et l'interruption volontaire de grossesse qui est à la main de la femme, ça va sauter parce que les femmes auront cette information-là elles-mêmes avant les 12 semaines. Donc elles vont à la carte, au fond, elles pourront à la carte choisir l'enfant de leur désir, en fait. Et ça, c'est une révolution dans le diagnostic, et ça va révolutionner la pratique médicale. Et le monde médical en est conscient, mais il ne s'y oppose pas, parce que c'est la loi du marché.
Alors, avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, on a envie de vous dire, on a probablement des auditeurs, des auditrices qui ont été confrontés à ce type de situation et qui peut-être ont fait le choix donc d'une interruption volontaire de grossesse. Comment vous sautez ce pas qui pour vous paraît évident, mais pour je pense une bonne partie de nos auditeurs ne l'est pas forcément, enfin pour une partie, qui est de dire quoi, là, il y a un test qui va arriver, qui sera entre guillemets, enfin c'est ce qu'on a compris, encore plus précis. Pour autant, liberté est laissée aux femmes de poser ce choix. Donc cet eugénisme que vous dénoncez, c'est un eugénisme d'État, mais à un moment il y a une décision à prendre, et les femmes, enfin en tout cas la loi leur permet cette liberté.
Quand je parle d'eugénisme, je parle toujours d'un eugénisme d'État, et je ne parle pas d'un eugénisme des familles, ce qui est le contraire d'ailleurs de ce que disent les médecins. Et le monde médical, pour se dédouaner, disent « mais nous, les parents nous demandent, etc. » Donc, en fait, ils reportent la charge de la faute, si je puis dire, sur les parents. Ils disent « c'est les parents qui veulent un enfant qui n'est pas trisomique, etc. » En réalité, c'est très malveillant de procéder de la sorte. Il y a un eugénisme d'État parce que c'est l'offre, c'est l'offre qui crée la demande. C'est parce qu'il y a une offre, et c'est ça que j'ai voulu montrer dans mon livre, pour essayer de... Je veux sortir du débat moral, du colloque singulier entre la femme, la liberté de la femme, son confesseur, son médecin, son mari, etc. C'est pas ça mon sujet. Moi, je juge pas les gens, et ça m'est bien égal ce que font les gens dans leur fort intérieur. Je prends le problème global, le problème macro, et économique, macro-politique, si vous voulez. Ce que je vois, c'est qu'il y a une offre commerciale monstrueuse à l'échelle de la planète qui dégage des dizaines de milliards d'euros et qui est le fait d'une marchandisation du vivant contre laquelle nous devrions nous prémunir. Et la médecine se fait avoir dans cette affaire-là. Je ne parle même pas de l'assurance maladie et des parents, etc. Mais c'est ça qu'il faut voir. C'est que le monde, enfin, les parents que nous sommes, que nos enfants feront, les couples de nos enfants, etc., sont déjà ou seront victimes de ce rouleau compresseur d'une marchandisation du vivant. Et parce que penser que la femme a encore la liberté d'esprit de réfléchir à ça ou de s'y opposer, c'est une illusion. Ce n'est plus le cas. Donc en fait, c'est de ça dont je veux prévenir les gens. Moi, je ne suis pas en train je fais pas de procès à personne, ni même aux médecins, ni même aux femmes. Je dis que derrière, il y a une volonté marchande. Et c'est en cela que je stigmatise l'eugénisme. Et en cela que je le distingue de l'eugénisme d'il y a 70 ans. Alors, les résultats sont les mêmes, sont exactement les mêmes. Parce que ça élimine des populations entières sur le critère de leur génome. Et ce que je dis dans mon bouquin, c'est que c'est quand même la première fois dans l'histoire de la médecine qu'une politique de santé rend mortelle une pathologie qui ne l'est pas. Enfin, c'est la première fois depuis 2400 ans, c'est-à-dire depuis Hippocrate, qu'une politique de santé portée par un État budgété, payé par nos cotisations, aboutit à tuer des personnes qui ne sont pas malades. Les personnes trisomiques 21, elles ne sont pas porteuses d'une maladie mortelle. Donc, en fait, c'est ça dont il faut se rendre compte aujourd'hui. Il est là le problème, si vous voulez.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission ce matin donc avec Jean-Marie Lemenet, en direct depuis les studios de Radio Notre-Dame, donc pour un duplex, auteur aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, d'un ouvrage qui s'est intitulé « Les premières victimes du transhumanisme », donc propos de cet ouvrage, cri d'alarme quant à la généralisation donc d'un nouveau test, un test ADN pour dépistage de la trisomie 21 et autres pathologies. Jean-Marie Lemenet, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, donc cette entreprise dont vous parlez au début de votre ouvrage, c'est quoi non ? Où est-ce qu'ils en sont ? Comment ils se portent ? Est-ce que c'est les seuls en fait ? Est-ce qu'ils ont préempté ce marché du dépistage via ce test ADN ?
Non, il y a d'autres, il y a 3, 4 ou 5 autres entreprises de la côte est des États-Unis qui sont en concurrence extrêmement acharnée pour se disputer le marché. Bon, moi j'ai choisi Sequenom parce que c'est l'entreprise dont j'avais entendu parler, qui a pénétré le marché français, mais le marché allemand, donc c'est comme ça que je les ai repérés. Après ça, il y en a d'autres, voilà. Après ça, comment ils se portent aujourd'hui, je pense qu'ils se portent pas mal, mais moi, mon bouquin, je l'ai arrêté il y a un an, donc je n'ai pas été revoir depuis. Ça m'intéresse moins maintenant. Mais je sais que ce test va arriver de toute façon. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire ce test va arriver. Et il est déjà là. Enfin, il est déjà en expérimentation dans certains hôpitaux parisiens.
Alors, vous parlez de syndrome de Stockholm sur la trisomie 21. Alors, on peut comprendre, au vu des propos que vous avez tenus jusque-là et des propos de votre ouvrage, qu'est-ce que vous entendez par là et qu'est-ce que vous développez dans ce chapitre que vous appelez le syndrome de Stockholm des handicapés ?
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est dramatique, c'est qu'au fond, on pourrait se dire, mais les parents d'enfants handicapés vont réagir, les associations vont réagir, etc. Mais non, en fait, personne ne réagit. Tout le monde a accepté aujourd'hui l'eugénisme de la trisomie 21. Et j'en veux pour exemple le journal de l'UNAPI, qui est une grande association de parents d'enfants inadaptés, que j'aime beaucoup.
Donc, Union nationale des parents d'enfants
oui,
inadaptés.
Oui, moi, je l'aime bien. On a travaillé avec eux, on les connaît, etc. Et en fait, ils ont donné la parole au professeur Israël Nizan dans un numéro de juin 2014 en lui faisant tenir des propos totalement eugénistes. Donc, dans un journal qui défend les personnes handicapées mentales, on donne la parole à l'un des plus grands eugénistes de France, qui d'ailleurs ne s'en cache pas et qui dit oui, quand on choisit les enfants à naître, on est dans un programme eugénique. Le terme effraie car on pense forcément au régime nazi, même si le DPN n'est pas discriminatoire, pas coercitif, quoi qu'on peut se poser la question parfois, même si son fondement scientifique est légitime, il ne faut pas se le cacher et cela ne m'offense pas de l'accepter. Donc, on se dit, mais alors bon, même les parents eux-mêmes, je veux dire, lâchent la rampe, voilà, c'est ça. Donc, en fait, les gens, et c'est la grande caractéristique de l'époque que nous traversons, c'est que l'homme ne veut plus se sauver. L'homme ne croit plus en lui-même, il n'a plus de raison de vivre, et il n'a plus de raison de donner la vie, ni d'accepter la vie. Et ça, c'est absolument dramatique, ça va bien au-delà de mon livre.
Alors pourtant, quand vous citez le professeur Israël Nizan, vous citez aussi d'autres propos où il a l'air d'être plus nuancé, donc c'est ça qui est difficile à comprendre. Entre autres, il y a un passage, alors c'est pas dans le journal de l'UNAPEI qu'il tient ses propos, où il dit « Je suis assez content d'être né avant le diagnostic prénatal, je vais aller un peu plus loin, ma mère n'a jamais eu à formuler devant moi en phrase avec un sujet verbe complément ce qu'elle aurait fait de moi si j'avais été un jeton. » Donc elle n'a un jeton étant, on comprend entre les lignes, en fait une personne trisomique 21, elle n'a jamais eu une parole de mort à mon égard. Qu'est-ce à dire en fait? Là on a du mal à comprendre en fait.
Bah, c'est très simple, non? C'est-à-dire qu'il y a une parfaite schizophrénie des gens de pouvoir, en fait. Aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a pas de, pour leur compte personnel, ils ont leur petite morale, mais il n'y a pas de bien commun, il n'y a pas d'objectivisation, il n'y a pas de, voilà. Bon, il est bien content de vivre, mais au fond, ça ne le dérange pas de proposer la mort. D'ailleurs, il le dit. Nous, les médecins, les gynécologues, obstétriciens, on a la mort dans notre musette, quoi. Voilà. C'est le paradoxe de notre époque.
Pour finir, et on fait un peu de flashback par rapport à votre ouvrage, vous dites dans votre avant-propos que, en fait, vous aviez, enfin, pas baissé les bras, mais vous aviez, vous dites, de guerre lâche, j'étais prêt à entendre ceux qui me conseillaient de déposer les armes. Mes trois faits inattendus et graves m'ont appliqué personnellement, m'incitant, à reprendre la plume. Quels sont ces trois événements, peut-être, que vous pouvez expliciter en cette fin d'émission et qui disent pourquoi vous avez écrit cet ouvrage, 7 ans après La trisomie est une tragédie grecque.
Nous avions fait on fait beaucoup de choses, hein, la Fondation depuis 20 ans. On avait notamment fait récemment une vidéo qui s'appelait Dear Future Mom, chère future maman. On a fait ça pour la fête des mères, une vidéo qui a extrêmement bien marché sur les réseaux sociaux, puisqu'elle a été vue plus de 7 millions de fois, qu'elle a été...
Été 2014, vidéo, donc, vous dites
dans l'entourage. Vidéo qui était la plus partagée dans le monde pendant 24 heures. Donc, elle a eu des prix, etc., un truc extraordinaire. Et à un moment donné, on a vu, pendant l'été 2014, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA, publier un avis critique sur cette campagne en demandant aux chaînes de télévision de ne pas relayer sur leur chaîne la retransmission d'une partie même de ce tout petit film.
Alors que disait ce petit film ?
Ce petit film disait, voilà, chère maman, on est heureux de vivre, merci de nous avoir donné la vie, on a appris à lire, on pourra t'écrire des lettres d'amour, on a appris à faire un peu de bricolage avec papa, on pourra réparer le vélo ensemble, et puis peut-être que si je gagne un peu d'argent, je pourrais vous inviter au restaurant, voilà, c'était de cette nature. Donc il n'y avait absolument aucune, il n'y avait rien de polémique, hein. Simplement, ce qui était polémique, ça s'appelait chère future maman, c'est-à-dire, c'était pour montrer que chère future maman, si jamais un jour ça t'arrive, c'est pas dramatique, on peut être heureux, et le bonheur n'est pas incompatible avec le handicap. Et c'est ça qui a fait craquer le CSA, c'est que le CSA a refusé de considérer qu'on puisse admettre que bonheur et handicap puissent aller ensemble. Alors, moi, j'ai enquêté aussi au CSA, parce que donc le CSA a découragé les chaînes de télévision de passer ce film. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que deux plaintes qui avaient été déposées au CSA, dont une seulement qui faisait état d'une maman qui disait « Moi, j'ai eu un enfant trisomique, je l'ai avorté, donc par conséquent, ça me blesse de voir que le bonheur est possible avec un enfant trisomique 21. » Et donc, le CSA est parti sur une plainte, et encore, elle le regrettait. Elle disait « Mais j'en fais le deuil tous les jours. » Le CSA est pour ne pas décourager le féminisme et pour faire triompher le féminisme, finalement, le CSA a dit on ne peut pas associer bonheur et trisomie 21 parce que sinon ce serait condamner les femmes qui ont ou culpabiliser les femmes qui n'ont pas gardé leur enfant parce qu'elles l'ont avorté.
Vous voulez dire
donc
que ça,
on en est là.
Si et ça a été dire. Ça a été formulé comme tel, c'est-à-dire que
ça a été formulé comme tel. Oui. Dans l'avis du CSA. Donc c'est une disposition qui est absolument totalitaire, parce qu'il se basait sur rien, en fait. En fait, il n'y avait pas de plainte, il n'y en avait qu'une, et la personne faisait le deuil de son enfant, donc quelque part, elle le regrettait.
Alors pour finir...
Donc moi, j'ai trouvé ça terrible, et puis après ça, bon, j'ai fait bien plein d'autres choses. Enfin, j'ai fait effectivement une émission à France Inter, où...
Plein d'autres choses, vous en citez deux autres, en tout cas, deux autres raisons.
Je peux pas... Voilà, Jean-Didier Vincent, professeur de médecine, qui était très souvent sur les plateaux, en fait, je faisais une émission à France Inter sur le dépistage antenatal. Où j'étais le seul évidemment à défendre mon point de vue, et à un moment donné il a hurlé en fait au micro en disant mais pourquoi faut-il conserver les trisomies qui sont quand même un poison dans une famille, etc. Et là il y a eu une montée d'indignation d'ailleurs chez les auditeurs, mais il avait quand même dit ça.
Et vous dites aussi chez les journalistes, vous dites que le journaliste était gêné a priori, non c'est...
Ah, même le journaliste qui était favorable au dépistage était gêné, tout le monde était gêné, quoi. Mais bon, voilà, c'est ça. Mais ce qui veut dire que ce qui était grave là dans ce cas là c'est que c'est un professeur de médecine, si vous voulez. Alors quand un médecin considère que ses patients sont un poison, là il y a un problème. On ne sait plus où on est, quoi. C'est la perte des repères, quoi. Et puis je cite un troisième fait qui était je me souviens, c'était la remarque d'Olivier Dussopt pendant les lois de bioéthique, qui prenant...
Alors juste situer Olivier Dussopt et les lois de bioéthique.
C'est un parlementaire, loi de bioéthique en 2011, et pendant le débat il prend conscience du fait qu'il y a 96% des enfants trisomiques dépistés qui sont avortés, et il dit mais pourquoi il en reste 4%, quoi. Donc en fait la notion d'ordre établi elle est difficile à admettre.
Alors,
mais l'ordre établi c'est qu'il n'y ait plus de trisomiques, plus de naissances d'enfants handicapés, parce que c'est le bonheur et qu'il faut réconcilier les couples avec le bonheur.
Alors juste sur les propos pour finir donc d'Olivier Dussopt, derrière semble-t-il il s'en est défendu, mais vous êtes allé voir en fait quelle était exactement la teneur de ses propos. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, parce que la Fondation Jérôme Lejeune aussi avait fait de la publicité autour de cette phrase plus que malheureuse.
Oui, on a dénoncé ça dans le journal, on a fait ce qu'on a pu, mais bon, cette phrase avait été dite. En fait, elle retrace publiquement ce que pensent la plupart des gens. Moi, j'en fais même pas le procès à Olivier Dussopt lui-même, si vous voulez. Il a dit ça, mais c'est ce que pense tout le monde. Donc, en fait, on est dans cette situation-là, et il n'y a pas de retour en arrière possible aujourd'hui. Enfin, donc c'est pour ça que le travail de la Fondation est extrêmement difficile en réalité, parce que nous, notre travail, c'est essayer d'accrocher des réalisations concrètes à contre-pente. C'est-à-dire que nous, on a 8000 patients, on est la plus grosse consultation d'Europe, on est les seuls à financer de la recherche pour ne pas les tuer. C'est tout ce qu'on peut faire. Le reste est absolument inutile, mais à notre consultation viennent des gens qui ne sont plus des serre-têtes jupes plissées que de cheval. Hein. C'est des femmes voilées plutôt qui viennent parce que c'est l'avenir aujourd'hui peut-être de la France, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est ça. Mais la situation est extrêmement préoccupante aujourd'hui et c'est l'indication que je voulais donner dans ce livre.
Voilà, on rappelle le titre de votre ouvrage, Les premières victimes du transhumanisme, aux éditions Pierre-Guillaume de Goubert, Jean-Marie Le Menay, président...
Pierre-Guillaume de Roux.
Jean-Marie Le Menay, vous par contre, c'est bien Jean-Marie Le Menay, vous êtes président donc de la Fondation Jérôme Lejeune. Merci beaucoup, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet, ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.